Ben, j'avais rien anticipé du tout. C'est bizarre comme à la fois on est exactement les mêmes et à la fois pas du tout les mêmes.
Bah moi personnellement j'avais quand même pas mal conscience des difficultés au niveau notamment du sommeil et de l'attention que demandait un nouveau-né.
Je pense que ce qui est le plus difficile c'est d'avoir l'impression qu'on est seul à vivre ça, comme si c'était des solitudes un petit peu additionnées les unes aux autres, alors qu'en fait... C'est le truc le plus banal du monde, d'avoir des enfants.
Mais malgré ça, au moment où, où on a décidé d'essayer de devenir parents, le fait d'avoir conscience que c'était difficile, ça aurait rien changé en fait.
C'est vrai qu'on est pris entre mille et une injonctions. Vous êtes pas assez autoritaire, vous êtes trop autoritaire, il faut crier, il faut pas crier, il faut pas se prendre la tête, il faut passer des bons moments, etc., etc.
Je trouve que les discours en fait extérieurs, ils ont un impact seulement quand ils sont un peu en lien avec ce qu'on pense déjà au fond de nous-mêmes, quoi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sacrilège, ce sont des grandes personnes qu'on vient d'entendre. Vous le savez, on a l'habitude dans Barbatruc de tendre le micro aux enfants et aux ados. Mais pas cette fois. Non, cette fois, la parole est aux parents, car nous allons nous lancer dans un exercice un peu périlleux. Mettre des mots sur ce qu'il aurait mieux valu savoir avant. Avant de devenir des parents. Je repense à un sketch de Florence Foresti dans lequel elle parlait des horreurs de l'accouchement. Pourquoi parle-t-on d'accouchement par voix basse, disait-elle, à votre avis? Parce qu'il ne faut rien dire sur l'accouchement. Chut, on en parle à voix basse. Sinon, personne, plus jamais, ne fera des enfants. Sujet périlleux, oui, parce que ça peut donner l'impression qu'on voudrait dissuader ceux et celles qui nous écoutent d'avoir un enfant. Pas du tout. Il ne s'agit pas non plus de convaincre quiconque, mais de dire les choses qui, souvent, sont passées sous silence. Quelles sont les aspects difficiles, éprouvants, fatigants de la vie de parents. Le manque de sommeil, évidemment, mais le sait-on suffisamment? Les phobies d'impulsion aussi, on va en parler. Les conséquences sur la vie de couple, évidemment, et j'en passe. Parlons-en, oui. Mettre des mots sur le négatif, ça ne veut pas dire qu'on oublie le positif. C'est peut-être même le contraire, parce que c'est une démarche honnête et ça méritait bien un petit sacrilège.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Choisir d'être mère, c'est le titre d'un livre publié aux éditions La Thèse, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité. Et c'est le point de départ de cette émission. Bonjour René Grezard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste à l'Obs, autrice de cet ouvrage. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné qu'il faut faire à toutes les femmes enceintes, ce livre?
C'est une terrible question que vous me posez là. Moi, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir mère. Voilà.
Mais c'est un peu empoisonné.
Je ne sais pas si c'est empoisonné. Moi, je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Et je pense que le savoir, c'est aussi la possibilité d'une organisation. Et que quand on sait, on peut anticiper des choses. Parce que bien sûr, l'expérience de la maternité et de la parentalité est toujours inédite. Mais il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place avant pour qu'elles soient plus douces, en fait.
Voilà, on va faire le journal des mauvaises nouvelles de la vie de parents pour un consentement éclairé. C'est l'idée.
Ben, quand je parle de consentement éclairé, c'est qu'il y a un gros tabou en fait autour des difficultés de la maternité particulièrement et de la parentalité plus généralement. Et en fait, je pense que ça crée quelque chose où effectivement, du coup, on n'est pas bien au courant, on n'est pas préparé, et c'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour les parents, c'est mauvais pour l'enfant, c'est aussi mauvais pour l'entourage qui du coup est parfois franchement à l'ouest et qui va venir s'incruster à la maison pour boire le thé alors qu'on est juste épuisé et qu'on a besoin de dormir. Donc en fait, ça crée une situation comme ça où personne n'est finalement à la bonne place. Et je pense que si tout le monde est bien informé, bah, ça permet d'être tous à la bonne place.
Un livre, cette fois, pour les futurs pères que je recommande. Il est de Cédric Rostin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes thérapeute et vous avez publié cet ouvrage chez First Edition. Tu vas être papa. Vous êtes aussi aux commandes d'un podcast et d'un compte Instagram très suivi qui porte un très joli nom, Pas Patriarcat. Est-ce que c'est le rôle des pères de bousculer le patriarcat, Cédric Rostin?
Bah, je pense que le rôle des pères, c'est de prendre leur place et de le faire en conscience. Et surtout en comprenant une chose, c'est que on le fait avant tout en respectant bah, celle qui assure encore d'ailleurs la majeure partie du boulot, bah, les mères. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté, c'est de réussir à prendre cette place sans arriver avec nos gros sabots et de dire c'est comme ça que ça va se passer, alors que là, on doit plutôt écouter et apprendre.
Comment présentez-vous ce livre, Tu vas être papa? C'est un guide de développement paternel?
Ouais, c'est en effet, c'est la formulation qu'on a choisie. L'idée, c'est de donner des clés, de donner des éléments sur la préparation à l'accouchement, sur ensuite comment ça se passe quand le bébé arrive, comment ça se passe un peu aussi pour la mère, et quelle place on peut prendre, et pour trouver sa paternité.
Cette émission, en partenariat avec Bayard Jeunesse, est réalisée par Christophe Imbert, préparée par Margot Page. Thomas Langlin est à la technique. C'est Barbatruc jusqu'à 16h.
Dorothée Barba. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain, le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratch. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Aurel San sur France Inter, artiste masculin de l'année aux Victoires de la Musique. La quête extraite de son dernier album. Ce qu'il faudrait savoir avant d'avoir un enfant, ou savoir mieux. Nous parlons des tabous de la vie de parents cette semaine avec Renée Grezard, autrice de Choisir d'être mère, et avec Cédric Rostin, alias Papatriarcat, auteur de Tu vas être papa. La parole est aux parents. Écoutez ces propos recueillis à Nantes, à Paris et à Bruxelles par Juliette Proutot.
Je pense que le truc que j'avais pas anticipé en y réfléchissant, c'est que ça te remette à ce point-là en question. Je pense qu'il y a rien qui te remet plus en question que tes enfants. Cela dit, moi, ma mère m'avait dit un truc, mais dont j'avais pas pris toute la portée. Elle m'avait dit qu'avoir eu des enfants, c'était la plus grande aventure de sa vie. Et en fait, je comprends parce qu'en fait, c'est l'aventure qui, dans ta vie, te questionne le plus et te donne les plus grands bonheurs et les plus grandes difficultés aussi.
J'ai découvert qu'en fait, pour certaines femmes, allaiter, c'est pas facile, voire même ça peut être impossible. Donc évidemment que ça, c'est quelque chose qui est un peu désemparant.
Qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise avant ? La journée commence très tôt et que à 11h du matin, t'as déjà eu 1000 vies,
même le week-end.
Et donc tu fais tout un tas de choses dès le matin. Et par contre, tu peux plus faire l'amour le matin.
Et ça, même si on nous l'avait dit avant, on l'avait pas mesuré. Et donc c'est vrai que la vie commence très tôt et qu'il faut jouer des fois, parfois à partir de 6h du matin. Et ça, c'est dur.
Moi, je dirais ce qui m'a le plus impressionné, où vraiment je m'y attendais pas du tout, c'était plus le côté postpartum de la femme. Je m'attendais pas que ce soit aussi hard après, quoi. Tu vois, tu penses tout le temps à l'accouchement, mais je trouvais plus dur les semaines après, quoi.
Une autre chose que j'aurais pas cru, c'est le concept de faire ses nuits. Donc c'est un peu ce qu'on dit, c'est vraiment la question clé quand un enfant a quelques mois, c'est est-ce qu'il fait ses nuits ? Donc moi je m'attendais à ce que oui, il y a cette espèce de moment béni où tu peux dire aux autres ça y est, il fait ses nuits. Mais en fait c'est un concept complètement faux puisque certes il va faire ses nuits mais pendant un mois ou une semaine et puis ensuite ça va être une régression, c'est plutôt cyclique parce qu'il va y avoir les dents, mal au ventre, une fièvre, faire ses nuits, ça n'existe pas.
Jusqu'à un certain âge, quand même. Après, ça se stabilise, heureusement.
Et je suis ravie d'entendre ça. C'est l'un de mes combats personnels depuis des années. L'abolition de cette expression, faire ses nuits. Un enfant en bas âge ne fait pas ses nuits. Il dort la nuit par phase de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, mais faire ses nuits, ça n'a aucun sens. René Grezard, la privation de sommeil, est-ce vraiment, à votre avis, quelque chose que les futurs parents ne savent pas? On le dit beaucoup, hein, tout de même, que devenir parent affecte le sommeil.
On le dit beaucoup, mais alors il y a quelque chose qu'il faut savoir, et moi j'en ai été la première victime, c'est que on s'imagine toujours que les autres grossissent le trait. Et moi-même, qui suis très fêtarde, je me disais non mais c'est bon, je fais la teuf, y a pas de problème. Eh bien non, ça n'a rien à voir, et j'ai souffert comme tout le monde en fait, hein, du manque de sommeil. Personne n'est épargné par ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas une nuit comme ça où on a un problème, c'est des nuits qui se répètent et c'est des réveils qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que c'est pas comme une fête où on va et on décide, on choisit par joie de ne pas dormir. Là en fait, on est contraint de ne pas dormir. Et c'est pas pour rien que c'est une torture, hein, le manque de sommeil. Et ça crée de la dépression. En fait, c'est mesuré ça par des études psychologiques. On voit que quelqu'un qui manque de sommeil, en fait, il commence à sombrer.
Nos nuits sont beaucoup moins normales qu'on ne le pense. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. En fait, il suffit de comprendre que c'est pas si naturel que ça de dormir toute la nuit pour mieux appréhender ce sujet-là.
Tout à fait. Ce que je raconte dans le livre, c'est qu'un enfant qui arrive, il est en fait dans un cycle de sommeil qui est peut-être plus naturel que ce qu'on croit. C'est-à-dire que nous-mêmes, nos nuits, elles sont construites socialement. C'est-à-dire que, en fait, notamment, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. On n'a pas toujours dormi comme on dort actuellement. Il y a eu des périodes historiques où, en fait, on avait un sommeil biphasé. Et donc, on allait se réveiller à minuit, vivre une petite vie, faire des choses. En fait, c'est des choses qui ont été documentées par des historiens. C'est super intéressant. Et après, on reprenait du sommeil. Ce que ça montre, c'est qu'un enfant qui arrive, il dort peut-être comme nous, on dormirait si on vivait dans une grotte. Donc, qui ne dort pas bien ?
Cédric Rostin, vous pensez aussi qu'on ne le dit pas assez aux futurs parents, le problème du sommeil ?
Ah, je pense que le problème du sommeil, c'est un gros, gros sujet. Je l'ai traité il n'y a pas longtemps dans mon podcast avec une pro de santé qui s'appelle Audrey Njavé-Sulpizi. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un besoin physiologique qu'on traite, mais pas du tout comme les autres. C'est-à-dire qu'on oublie ce besoin, on n'informe pas ou peu les parents. Et surtout, pour moi, le grand drame, c'est que si demain vous allez chez un pro de santé et vous dites « voilà, mon enfant, il mange pas bien », on va chercher des solutions. Si on vous dit mon enfant il dort pas bien, c'est difficile, on va dire c'est normal, c'est un enfant. C'est-à-dire, on va même pas chercher. Et moi derrière cette question, est-ce qu'il fait ses nuits, moi ce que j'entends souvent c'est dis-moi que tu galères comme moi s'il te plaît.
D'ailleurs c'est insupportable ceux qui disent ouais c'est bon depuis une semaine il dort.
D'ailleurs cette histoire de ce qu'il faudrait savoir avant d'avoir un enfant, ça concerne aussi l'entourage hein, finalement, les proches, les amis, la famille des jeunes parents. Leur dire, les alerter pour qu'ils repèrent quand ça ne va pas du tout, peut-être, René Grezard.
Tout à fait. Moi, dans mon livre, j'interviewe Johanna Luisen, qui a sorti un livre il y a pas très longtemps qui s'appelle Si je veux, où elle raconte sa maternité célibataire. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que Johanna, elle raconte qu'en tant que mère célibataire, donc qui a fait un bébé toute seule, elle est beaucoup plus épaulée au final que des parents qui font des couples à deux, parce qu'il y a tout un imaginaire autour de l'arrivée d'un bébé. On se dit, ah, c'est mignon, ils ont leur petit bébé. Mais en fait, ce qui se passe dans le foyer, ben, c'est qu'on ne dort pas et qu'on est très, très fatigué. Et un très beau cadeau qu'on peut faire à des parents qui viennent d'avoir un bébé, ben, c'est de venir dormir une nuit, par exemple, chez eux, et de leur offrir une nuit de sommeil entière. Mais ça, mais moi, genre, salut, si jamais je refais un enfant, vous m'entendez, mes amis.
Le message est passé. Il y a un mot désuet, charmant, qui prend dans votre livre une toute autre tournure, René Grezard, c'est la Java. Presque aussi beau que la bamboche.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est la nuit de Java ?
Alors, la nuit de Java, c'est un concept que moi, j'aurais beaucoup aimé connaître avant d'avoir mon fils. En fait, c'est quelque chose qui arrive souvent la deuxième ou la troisième nuit après la naissance de l'enfant. C'est quelque chose de très simple. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un enfant naît, on l'oublie souvent, mais il a produit un gros effort pour arriver sur Terre. L'enfant lui-même, il s'est activé, il a tout motivé, et c'est comme un athlète. Donc, il arrive, il est épuisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait après un marathon ? Ben, peut-être qu'on peut dormir. Donc, il dort, il pionce. Et souvent, d'ailleurs, les gens arrivent à la maternité, disent « Oh là là, c'est génial, il est
dort
trop
déjà.
Mignon, il dort, il est si calme !» Mais en fait, pendant ce temps, la mère ou la personne qui a accouché, elle est complètement dans l'émerveillement de son bébé, elle le regarde, elle est subjuguée, quoi. Et c'est de l'adrénaline, ça. Ce qui fait que, alors qu'elle vient de produire un effort, la mère, la personne qui vient d'accoucher, est en plein dans cette adrénaline. Elle ne dort pas. Et donc, quand le bébé va se réveiller, il y a une sorte d'inversion des courbes où la mère, elle, a besoin de dormir. Et là, ben, c'est la cata. Et souvent, le gros problème, et c'est pour ça que je crois pas qu'on puisse dire qu'on ne peut pas prévenir les choses, il faut absolument que quand il y a un coparent ou quand il y a la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre, eh ben, cette personne-là soit là à la maternité. C'est super important. C'est inadmissible. Moi, vraiment, je le dis, mais très fermement, c'est inadmissible de laisser une femme toute seule qui vient d'accoucher avec un bébé qui pleure toute la nuit. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est épuisé. On se retrouve à dire qu'on est super nul, alors que non, on n'est pas nul. On est juste face à quelque chose qu'on n'est pas censé gérer seul. Pendant des siècles, on a géré ça en groupe. C'est cette situation-là qui est anormale et qu'on croit normale, en fait.
C'est très loin d'être la Java, donc, et l'emploi de ce mot n'est pas anodin, finalement.
Bah oui, c'est qu'autour de la maternité et de la naissance, comme c'est un récit qui est très édulcoré, qui est très fantasmé, on met plein de mots jolis comme ça, la nuit de la Java, mais en fait c'est pas du tout la Java.
C'est voilà. Rostin, vous vous souvenez de la nuit de Java à la naissance de votre fille ?
Oui, alors moi ce que je me souviens surtout, c'était qu'il faisait très chaud à la maternité, je dormais sur place avec ma compagne. Nous, notre fille en fait, elle est née suite à une césarienne, donc ma compagne ne se levait pas, et c'était moi, et c'est vrai que je dois avouer que je me rappelle très bien de cette troisième ou quatrième nuit.
Ça dépend.
Il s'est passé quelque chose aussi d'assez incroyable, et ça je pense qu'on peut aussi en parler, même si dans nos maisons on est seul, et je rejoins totalement René sur le sujet, et ça c'est un gros sujet de société, mais en attendant dans les couloirs de la maternité, moi je me rappelle croiser les parents, croiser des papas, croiser des mamans qui galéraient comme moi, avec le petit doigt dans la bouche du bébé, et on se regardait tous, et il y avait un espèce de petit côté quand même, on est dans le même bateau quoi.
Allez, on poursuit cette exploration des tabous de la parentalité juste après C'est la Sou sur France Inter. Can't do it, can't feel a thing, I'm numb. All I do is wait. Is there something wrong with me? Honestly, I don't get as high when I'm at a gate. And I can't go on like this. I'm useless. Someone wake me up from this life, yeah. I wish that I could feel something, but the bills do what they do. I was dancing on the ceiling. Now I can't feel nothing new. And if you look too close, you notice I lost all my emotions. Is it better when I'm broken, aiming for explosion? I wish that I could feel something, but the bills do what they do. Guess I'm okay. In my mind, it's useless. Can I wake me up from this life? Yeah, I wish that I could feel something, but the bills do what they do. I was dancing on the ceiling, now I can't feel nothing.
Vous écoutez Barbatruc sur France Inter. J'ai une exposition à vous conseiller, expo à visiter en famille avec des enfants entre 2 et 6 ans à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Fragile, c'est le titre. Concept important que la fragilité dont les petits et petites découvrent ici les différentes dimensions. Ils suivent les aventures de plusieurs personnages. Un ballon de baudruche, un œuf, une feuille de papier, une pelote de laine. Très jolie façon de manipuler des objets fragiles, expérimenter la chute, se sentir vulnérable, mobiliser ses capacités d'attention. Fragile, expo à visiter, à jouer, à vivre jusqu'en janvier 2023 à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Ça vous laisse un peu de temps. Nous jouons un peu les oiseaux de mauvais augure cette semaine dans Barbatruc, mais des gentils oiseaux, des oiseaux bienveillants. Nous parlons de ce qu'il faudrait savoir avant de devenir parent, le côté obscur de la parentalité. René Grezard et Cédric Rostin sont mes invités, autrices de « Choisir d'être mère » et auteurs de « Tu vas être papa ». Écoutons à nouveau des parents.
Un dernier tabou, c'est le soulagement, en fait, dont on parle pas beaucoup et qu'on peut ressentir quand les vacances se terminent et que les modes de garde, que l'école, la crèche reprend. Et où tu dis tu vas souffler un peu, quoi.
C'est un peu comme si tu partais en vacances ou au travail, d'une certaine manière.
Aujourd'hui, tu peux pas dire que c'est pas une déception, c'est difficile de trouver les bons mots, mais tu peux pas dire que... Pas que tu regrettes, c'est compliqué. Tu manques ta vie de jeune couple, quoi. Et ce qui est tabou, c'est de pas pouvoir vraiment le dire, en fait.
Moi, je trouve aussi que toutes tes frustrations, elles sortent sur l'autre, dans le couple, parce que tu protèges ton enfant, tu veux pas t'énerver sur lui, mais t'es fatigué, du coup, ça sort sur l'autre. Tu le découvres aussi dans un rôle de père ou de mère avec lequel t'adhères ou t'adhères pas.
Je pense qu'il y a des tranches d'âge pour les enfants qui conviennent mieux à certains parents. Et pas avoir peur de le dire aussi, je pense que c'est... Enfin voilà, moi je sais, parfois je me dis que j'ai hâte aussi de voir ce que ça va être à 12, à 14, à 16, à 20. Ce sera peut-être plus mon élément, mais après j'en sais rien là, ça sera peut-être pas du tout le cas.
Voilà, quelques tabous intéressants viennent d'être soulevés. Préférez les enfants plus grands que les bébés ou alors l'inverse? On a le droit, René Grezard.
Ah bah oui, mais de toute manière en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on croit la maternité et la parentalité exonérées de tout ce qui existe par ailleurs dans la vie. Si on regrette des amitiés, si on regrette de manger des trucs avec des gens, bah je sais pas, évidemment que le regret par exemple peut exister dans la maternité, évidemment qu'on a des préférences, voilà, moi je ne regrette pas et je pense qu'il faut arrêter d'édulcorer et de mythifier en fait ces récits.
Et puis le soulagement ressenti quand l'école ou la crèche s'occupe de l'enfant, c'est un sujet qui a émergé à l'occasion du confinement. Les parents se sont beaucoup vus reprocher de ne pas avoir envie de passer toute leur journée avec leur progéniture. C'est un tabou donc qui a été partiellement levé. Cédric Rostin, et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant d'avoir un enfant?
J'aurais aimé déjà qu'on me dise à quel point j'allais me prendre une vague d'amour auquel j'étais pas habitué.
Ça, c'est pas très tabou, franchement. Ça triche.
Si c'est tabou, parce que le nombre de témoignages, d'ailleurs, dans mon podcast aussi, de pères, justement, qui disent « Ouais, non, mais attends, voilà, je fais attention à pas pleurer, à pas trop en parler. » C'est un vrai sujet pour les mecs. C'est un vrai sujet de s'autoriser à ressentir ça. Donc j'aurais aimé qu'on parle de ça, mais surtout, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est à quel point ça allait bousculer l'ordre des choses établi, parce que à la maison, ça peut être compliqué quand même. On a beau se dire que, allez, on a bien réparti les tâches, le bébé arrive, ça explose tout quand même. Et en plus, c'est très compliqué parce qu'on rentre chez soi, tout est pareil, mais tout est différent. Mmh. C'est vraiment un basculement qui est très perturbant.
Peut-être aussi prévenir tout le monde qu'il faut se débarrasser du verbe « aider ». Oh, c'est bien que tu aides la maman, ça en arrête pour toujours. Alors, tu n'aides pas la maman.
Il y a deux, derrière ce verbe aider, moi, il y a deux gros sujets. Un que j'adresse au père directement, c'est on n'aide pas la maman, on fait juste son job de papa. Voilà, ok, ça, premier point. Et l'autre point, c'est, je pense que c'est aussi une erreur sémantique de l'utiliser, même pour l'entourage, parce qu'en fait, on vient pas aider le parent et on ne demande pas de l'aide, on demande du soutien. Parce que demander de l'aide, ça induit un petit peu qu'on est incompétent en tant que parent, alors que c'est pas ça qu'on veut. On veut peut-être passer du temps avec son bébé, mais que quelqu'un s'occupe de faire nos machines et s'occupe de faire le ménage aussi.
Le soutien, donc.
Le soutien.
J'aimerais qu'on se penche aussi avec vous, Cédric Rostin, sur deux expressions, ces deux affreux anglicismes, mais qui mettent le doigt sur un mécanisme à l'œuvre dans notre société. le dad blessing et le mom shaming. Ouais. Autrement dit, la sacralisation du père et la culpabilisation des mères. C'est très bien résumé par un dessin de l'illustratrice Blachette dans votre livre. On voit une femme qui tient son bébé dans les bras et à qui on dit « il est toujours collé à toi ». Et puis on voit un homme qui tient son bébé dans les bras et à qui on dit « ah, c'est beau, un père qui s'investit ».
C'est ça. Et on peut même pousser le vice à, vous voyez cette maman qui porte. Par exemple, une maman qui porte sur les réseaux sociaux, elle met une photo. Alors, est-ce qu'elle utilise le bon porte-bébé? Est-ce qu'elle utilise la bonne écharpe? Est-ce qu'elle a le bon nouage? Elle peut se prendre, mais vraiment une flopée de commentaires qui vont un petit peu dire que, de toute façon, quoi qu'elle fasse, ça va pas. Les mères sont les grandes perdantes, quand même, de la parentalité. Et de l'autre côté, on a le père qui, lui, quoi qu'il fasse, c'est génial. Et comme le dit Claire Tran, cofondatrice de l'association Parents et Féministes, que je cite dans le livre, il y a que les papas qui participent au JO de la parentalité pour avoir des médailles.
Quelle est la solution quand on est un père féministe comme vous? C'est de ne surtout jamais s'auto-féliciter?
Je pense qu'on peut se demander à un moment, ça c'est une vraie question à laquelle je réfléchis. Il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'applaudirait pas les mères aussi? Pourquoi est-ce qu'on s'applaudirait pas tous de temps en temps, mais pourquoi pas? Et sinon, on peut aussi admettre quand même que chez les mecs, on a un petit côté, on aime bien qu'on nous dise qu'on a bien fait, hein, on est un petit peu habitué à ça depuis tout petit. On peut aussi remettre ça en question, je pense, et la fragilité de notre ego.
René Grezard, vous évoquez dans votre livre une rupture de transmission des savoirs parentaux. Autrement dit, la formation continue à la parentalité n'est plus assurée dans notre société.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une sidération, souvent on parle d'une impréparation en fait des parents, et ça c'est quelque chose qui est étudié par des chercheurs et qui se mesure donc à différents niveaux. La première chose, c'est que pour des raisons démographiques, on n'est plus aussi proche de nos parents qu'on ne l'était. Mmh. Il y a eu aussi une perte de savoir parce qu'il y a eu beaucoup de progrès médicaux qui font que on n'est pas socialisé aujourd'hui autour des mêmes savoirs que nos parents. Ça se sent dès la grossesse. Moi, ma mère, elle me disait mais qu'est-ce que c'est que cette grossesse de merde où tu peux pas manger ci, ça, ça et ça. Mais du coup, ça fait que la transmission est compliquée parce que ce que des parents aimeraient dire à leur enfant, en fait, leur enfant sont là mais non, tu racontes n'importe quoi, tais-toi donc. Ouais. Donc, on est très isolé dans nos parentalités. Il y a encore d'autres raisons. Démographiques, enfin, qui font, en fait, un enfant, c'est devenu une valeur sociale. Ça nous valorise d'avoir un enfant, et donc on n'est pas censé critiquer, en fait, toute l'expérience de la maternité, parce que si on commence à critiquer la maternité, on n'est plus dans le don, on commence à parler du prix du cadeau, et donc ça va pas. Tout ça fait qu'on est dans des récits qui ne sont pas transmis ou mal, et qu'on est très seul dans sa parentalité, et encore plus dans sa maternité, parce que les femmes, comme le disait très bien Cédric, sont les grandes perdantes de ce jeu-là.
C'est un peu ce que disait une des mères qui témoignait en introduction de cette émission, ce sont des solitudes qui se côtoient et pourtant c'est d'une banalité confondante d'avoir
Exactement.
Un enfant aujourd'hui.
Exactement, et moi une image qui me revenait tout le temps quand j'étais en congé maternité et que vraiment j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus d'être toute seule à la maison avec un bébé qui pleurait tout le temps, avec toutes les tâches de la maison, enfin j'étais débordée, vraiment sidérée, ça allait vraiment pas bien. J'ai fait une dépression, comme 13% des femmes au passage. Mmh. Et quand je sortais dans la rue, je me disais mais là, potentiellement, dans cet appartement, il y a une femme qui elle aussi est toute seule avec un bébé qui pleure, et elle est en train de pleurer face à son bébé qui pleure, et on est toutes là isolées, et moi ça me rendait dingue. Je me disais, mais comment on peut vivre comme ça? C'est pas normal.
Il faut le dire plus, à quel point c'est fréquent la dépression postpartum.
Bien sûr, et il faut le dire dans le sens où je pense que c'est évitable, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que il y a des dépressions qui arrivent dans tous les cas, parce que c'est sûr que c'est une expérience qui est très intense, la maternité et la parentalité. Quand on devient parent, on tombe sur l'enfant qu'on a été aussi. Ça, c'est quelque chose de très particulier, en fait. On se rencontre soi-même. Par exemple, on peut se dire, mais attends, mais comment mes parents peuvent me faire un truc pareil? C'est quand même inadmissible. Moi, je ne ferais jamais ça à mon gosse. Donc, c'est une expérience qui est éprouvante, qui est intense. Donc, dans tous les cas, je dis pas qu'on pourrait complètement annuler le taux de dépression, mais en revanche, je pense qu'avec de l'organisation, du soutien, c'est un très bon mot, on peut quand même réduire la voilure.
Alors, puisqu'il y a rupture de transmission, on va jouer à notre petite échelle ce rôle de transmission. Juliette Proutot a posé la question à des mères et à des pères. Qu'avez-vous appris en ayant des enfants que vous n'aviez pas anticipé?
Il y a un changement très important, c'est la perception de ton environnement, la perception de ce qu'il y a autour de toi. Tu perds du coup une forme d'insouciance sur tes déplacements, puisque tu vas toujours être en train de te poser la question de est-ce qu'il y a trop de bruit, est-ce que les gens fument, est-ce qu'il va y avoir de la musique dans ce bar, est-ce que les trottoirs vont être assez larges, est-ce qu'il va y avoir des parcs autour pour que je puisse le lâcher? Est-ce que le toboggan sera accessible à son âge ou est-ce qu'il va y avoir des enfants beaucoup plus grands qui vont le piétiner?
Non, tu te perds un peu, je trouve. Parce que du coup, il y a une autre priorité, il y a d'autres trucs. Et c'est un peu arriver à retrouver sa place et ses ambitions, ses projets. T'es un peu en pause, comme ça, j'ai l'impression, pendant un petit temps.
Bouleversement de l'équilibre, à ce point-là. Non, mais c'est vrai.
Ce qui a pu se révéler aussi, c'est que au sein du couple, tu peux avoir des avis qui sont pas toujours
similaires. Alors, on peut avoir les mêmes avis sur les grands principes, et puis une fois qu'il faut les mettre en œuvre, il y a des petits décalages, ou alors on n'a pas la même tolérance face à une situation. Donc, la gestion des pleurs, quand est-ce qu'on enlève le lit à barreaux, tout ça, ça fait que ça crée des petites tensions quand même, et donc il faut les gérer. Mais on s'en sort.
Oui, on s'en est sorti, je crois.
On s'en est sorti.
Et il y a une chose qu'on regrette pas du tout, c'est de pas l'avoir eu trop tôt. Oui. Ça, je pense que c'est important.
On a eu le temps d'avoir une vie avant. Et maintenant, on a une nouvelle vie qui est plus remplie, dans laquelle il y a plus de jeux, plus de chansons. Et ça nous va bien maintenant. Mais on est contente d'avoir eu...
C'est vrai qu'on chante beaucoup plus quand on a un enfant. Ça, c'est chouette.
Alors ça, c'est une très belle idée. La place de la chanson dans la vie des parents, effectivement, beaucoup plus forte. La perte de l'insouciance, se perdre dans sa maternité ou dans sa paternité. Et puis, évidemment, le couple qui parfois pâtit, Cédric Rostin, de l'arrivée de l'enfant, ce sont évidemment des sujets qui vous interpellent aussi.
Complètement. Et je pense, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, il y a quelque chose qui est appelé le projet parental et qui est justement de parler de plein de sujets en amont. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou peu. Et je dirais même d'en parler avant même d'attaquer la conception parce que on peut s'apercevoir, et ça, c'est un des grands drames aussi que j'entends chez les parents et surtout chez les mères, c'est de s'apercevoir que, en fait, on n'a pas la même vision de l'éducation, notamment de la violence au sein de l'éducation. On n'a pas la même vision sur l'allaitement, sur le cododo, enfin voilà, sur plein, tout un tas de pratiques.
Donc il faut parler de tout ça avant, vraiment ?
Bah ouais, bah pourquoi pas.
Mais ça peut être très long. Hein.
Si vous faites un projet de maison avec un architecte, avec votre mari, votre compagne, votre compagnon, bah vous allez parler de la disposition de la chambre, comment est-ce qu'on construit la maison. Voilà, bah en fait, le projet parental, c'est la même chose, il faut le construire.
Parlons aussi des phobies d'impulsion, s'il vous plaît, parce que là, c'est un sujet qui est très peu connu. Les futurs parents qui nous écoutent peut-être le découvrent. De quoi s'agit-il, Cédric Rostin ? Qu'est-ce qu'une phobie d'impulsion ?
La phobie d'impulsion, alors déjà ça peut être un état qui est un peu permanent, c'est-à-dire un état de crainte, vraiment d'anxiété qui est créé par le fait de se tromper, de faire peur. Je vais le dire très clairement, éloignez-vous des réseaux sociaux si c'est ce que vous ressentez, parce que ça c'est clairement anxiogène. Mais il y a aussi ce moment en fait où on se voit faire quelque chose à son enfant. Les témoignages sont nombreux.
Grave.
Moi-même, je me suis imaginé envoyer mon enfant contre le mur.
Mais tous les parents, je pense. Hein.
Ah oui, c'est sûr.
Ah bah là, on est sur 100% du coup dans ce studio.
Et voilà. Comme,
moi, je me suis vu le jeter sous les rails du métro.
Ouais, tous les parents voient ça.
Et comme René le disait tout à l'heure, ça arrive principalement quand on est seul avec l'enfant toute la journée, sachant que ça devrait pas arriver, quoi.
Ça veut pas dire qu'on en a envie. Ça veut dire qu'on visualise la scène.
Ça veut dire qu'on le visualise parce qu'on en a peur. C'est un mécanisme psychologique qui est assez fascinant et passionnant. En fait, c'est quelque chose qui arrive quand on a une personne fragile en face de soi. Donc moi, par exemple, j'avais un ami qui se voyait mettre des croche-pattes à des vieux monsieur avec des cannes. Mais quand on a un bébé, en fait, ce qu'on se voit faire, c'est le pire qui puisse arriver pour lui. Ce qu'on va visualiser, c'est notre cauchemar. Et en fait, c'est des images qui sont présentes. Il y a des gens qui cachent leur couteau dans leur cuisine. Moi, je me voyais fracasser mon enfant par terre. Enfin, je l'imaginais tomber sur le carrelage. Et c'est pas quelque chose, il faut le dire, et c'est super important, c'est quelque chose de connu, de documenté, mais c'est pas quelque chose dont on nous parle, et c'est quelque chose de fréquent, et surtout, c'est ça le plus important, on ne passe pas à l'acte. Et en fait, la phobie d'impulsion, c'est de la protection bizarre de son enfant.
Et si ça prend trop de place, il faut pas hésiter à en parler,
à parler un psy,
et à demander de l'aide.
Mais même dès la première, je pense qu'il faut en parler, parce que ça vient nourrir ensuite un sentiment de « mon Dieu, mais je suis un parent horrible,
je suis un monstre,
je suis vraiment là, c'est pas possible ».
La commission des 1000 premiers jours dans son rapport rappelle que le sentiment d'isolement est la première source de mal-être chez les nouveaux parents. Devenir parent, c'est donc une expérience très répandue et pourtant tout le monde se sent tout seul dans son coin. C'est ce que vous disiez. Un peu de musique à présent. Notre facétieux programmateur Jean-Baptiste Audibert a choisi de vous faire écouter, bien sûr, The Mamas and the Papas.
Because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed.
Exactly like we want it to be.
I could be satisfied.
Titre de 1967, Dedicated to One I Love, The Mamas and the Papas sur Inter. René Grezard et Cédric Rostin, invités de Barbatruc cette semaine. Qu'est-ce que ça change dans la vie de devenir parent? Question à la fois toute bête et tellement compliquée. Votre enquête vous a mené vers des domaines de recherche surprenants. René Grezard, vous avez contacté un chercheur en psychologie canadien qui vous a dessiné la courbe de mignonnerie des bébés. Et c'est très sérieux.
Oui, c'est très sérieux. En fait, c'est une question qu'on m'a posée pendant que j'écrivais le livre. On m'a dit, faut absolument que tu me dises si c'est possible de trouver son bébé moche ou pas.
Ouais. Alors, on se débarrasse de la question.
Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est pas une question qui me travaillait, mais j'ai décidé de la traiter. Parce que moi, j'avoue, j'ai trouvé mon fils merveilleux et toujours sublime. Et plus tard, j'ai revu des photos en me disant, là, quand même, on était dans une sorte de petite illusion, on peut le dire. Parce qu'il avait une tête de sénateur boutonneux avec des cheveux qui recouvrent comme ça, un peu bizarre. Mais il était, à mes yeux, l'enfant le plus beau du monde. Et non, mais ce que disait le chercheur, et c'est super intéressant, c'est de voir qu'en fait, la courbe, ce que ça montre, c'est qu'on les trouve très mignons, mais on les trouve particulièrement mignons à un stade où on a moins peur qu'ils meurent et aussi où, en fait, ils ont besoin de nous pour qu'on s'occupe d'eux. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, qu'on ne dort pas, que c'est psychologiquement très difficile à vivre, et aussi est racheté par cette mignonnesse. On ne peut jamais leur en vouloir. Ils sont fabuleux. Enfin, je veux dire, on les regarde et on est fous d'amour.
Et vous écrivez ceci, pas de panique, s'il est moche comme un pou ou que vous ne l'aimez pas tout de suite, vous ne serez pas la première à le penser.
Oui, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est pas fréquent, mais ça arrive en fait que des parents gardent leur lucidité face à la mocheté de leur bébé et que tout le monde, contrairement à moi, enfin, il y a des gens qui, contrairement à moi, trouvent leur bébé moche parce qu'il l'est factuellement.
Il n'y a pas de fait en la matière, vous le savez.
Non, mais quand je dis factuellement, c'est que, ben, par exemple, l'acné du nourrisson, c'est un truc, quoi, je veux dire. On peut être très beau avec de l'acné, mais on peut ne pas être à son avantage, on va dire, voilà.
Les conséquences sur la vie de couple, pour en revenir à ce sujet qui occupe une large place de votre ouvrage, René Grezard, là encore, vous avez vraiment l'impression que ce soit tu, que tout le monde ne le sache pas avant, que ça va affecter la vie du couple?
Ah, mais ça, c'est sûr et certain, parce que moi, je mesure, en fait, autour de moi, le nombre de gens qui se sont pris une claque monumentale dans leur couple, et puis moi, la première, hein, parce que je me suis séparée du père de mon fils, et ça a été très douloureux, et je pense que il y a des choses qu'on aurait pu anticiper, et surtout, je pense que la crise qu'on a traversée tous les deux, on l'aurait pas traversée de la même manière si j'avais su que c'était ça qui nous arrivait. C'est-à-dire que quand on a un enfant, les témoignages que vous diffusiez tout à l'heure étaient super pour ça, en fait, on est tellement à l'épreuve physiquement, c'est-à-dire qu'on est fatigué, psychologiquement aussi, c'est compliqué. Et puis il y a aussi ce truc de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on était deux, on devient trois ou plus. Tout ça, en fait, nous met au milieu d'un petit cataclysme émotionnel et c'est complètement normal qu'il y ait des tensions dans le couple. Ça n'est pas la faute de l'enfant, c'est la situation qui crée ça.
Cédric Rostin ?
Oui, complètement. Ça amène de grands bouleversements dans le couple. Et puis en plus, derrière, parlons-en, prononçons le mot, il y a la sexualité aussi qui est souvent un grand enjeu du postpartum. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi un grand tabou. Mais c'est aussi un grand tabou parce que derrière, il y a une culture sociale qui veut que on pense que l'autre est responsable de notre désir et de notre plaisir. Alors que c'est notre sujet. Et donc, c'est quelque chose que moi, quand je parle avec les papas, ils me disent, mais tu comprends, elle veut plus faire l'amour. Ok, mais débrouille-toi tout seul. Enfin, je pense que dans ton adolescence, on a tous assez pratiqué pour savoir comment on fait. Donc ça, c'est des gros sujets. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres sujets qui viennent se greffer. Et il y a aussi un gros sujet, c'est le fait que le père retourne travailler aussi, qui va créer un énorme déséquilibre.
Il était impossible de ne pas parler de congé paternité. Exactement. Avec vous, Cédric Rostin. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tous les pères prennent les jours de congé paternité?
Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, tout simplement parce que c'est leur responsabilité quand ils deviennent parents d'accompagner l'enfant qui vient. Parce que c'est vrai qu'on parle des parents, mais il y a aussi l'enfant. On accueille l'enfant. Il a besoin d'avoir ces figures d'attachement qui sont présentes. Et puis, derrière, il y a de gros enjeux qui soient économiques, sociétaux ou d'égalité homme-femme. Et moi, je rejoins la proposition de Violaine Dutrot, militante chez Parents et Féministes, qui est un congé correctement rémunéré, équivalent à celui de la mère, avec 8 semaines obligatoires suite à l'accouchement et 2 semaines obligatoires suite à la reprise du travail de la mère.
On en est un peu loin encore.
On en est très loin.
Mais on veut ça, c'est sûr. C'est super important.
Nous allons écouter encore des témoignages de mères et de pères. Devinez ce qu'on a gardé pour la fin. Le meilleur.
Tu reçois beaucoup, beaucoup d'amour de tes enfants. Et ça, c'est, ça reste très chouette, que ce soit tes enfants ou d'autres d'ailleurs. Mais
quand tu le sens
quand tu vas les chercher quelque part et quand tu les réveilles le matin et quand tu reçois énormément d'amour.
C'est plus la sensation que tu n'as jamais eue. Un truc que tu découvres, une sensation que tu n'avais jamais eue avant, qui est d'ailleurs très dure à expliquer. C'est d'un coup, c'est comme une grosse décision et ça rend ta vie beaucoup plus active. Tu deviens un peu... Moi, j'étais un peu passif dans mes choix et tout. Puis là, c'est un choix où tu es actif et puis tu dois le rester actif. Et puis ça, c'est chouette d'être un peu d'un coup, le personnage principal de ton histoire et pas juste un gars qui regarde ta vie passer comme ça.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on m'avait dit et qui m'a toujours fort aidé, c'est de se dire que tout passe. Et que du coup, vraiment, essayer de prendre un mini step back. Parce que t'es toujours la tête vraiment dans le guidon, mais en vrai, tout passe et ça va aller. Mais bon, il y a un début, il y aura une fin et voilà. Les petits moments que t'as en famille, où il y a un de tes enfants qui se prend un fou rire ou juste un sourire. Enfin, tu te nourris de plein de petites choses, mais en fait, c'est vraiment toutes des petites choses au quotidien, je trouve. Ouais.
Moi, ce que ça m'a changé aussi, c'est la perception du monde. Des choses qui pouvaient me paraître plutôt graves ou embêtantes avant, bah maintenant, je me dis, non, mais c'est pas si grave. Et donc, c'est vraiment ça que ça change, c'est... Finalement, la vie est plus légère avec un enfant.
Oui, tous ces changements, même si ça peut être des perturbations assez fortes hein, dans ton trajet, finalement, tout le reste, ça compense largement les désagréments.
Une fois qu'on devient un parent, je trouve que ça peut être rassurant. Au final, d'entendre des discours de gens qui ont traversé les mêmes galères, quoi. Ça rassure et ça permet de tenir un peu plus sur la durée, quoi. On n'est pas les seuls à passer par là. Les autres, ils s'en sont sortis. Du coup, nous aussi, on va s'en sortir. D'un autre côté, c'est vivre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, en fait. On n'aurait jamais pu imaginer l'intensité.
Merci à ces mères et à ces pères pour leur témoignage recueilli par Juliette Proutot. Les côtés positifs de la vie de parents, c'est pas tabou du tout pour le coup, mais c'est pas évident de mettre des mots dessus, René Grosard.
Non, c'est pas évident et moi je me suis posé beaucoup cette question dans mon livre parce que c'était très important pour moi de dire que je veux pas dire que la maternité et la parentalité c'est difficile, que ça en fait il y a une partie qui est merveilleuse et moi mon fils je dis toujours comme ça, c'est les mots qui me viennent, je suis désolée mais c'est mon trésor d'amour et de joie.
Et vous parlez de ses ongles.
Et ses ongles, mais ses ongles, quand son bébé naît et qu'on voit qu'il a des ongles, on se dit mais c'est pas possible, il a des ongles, il a des petits ongles, c'est moi qui les ai faits. Et non, mais au-delà de ça, moi, il me fait mourir de rire tout le temps. Enfin, il me pose des questions que je trouve fabuleuses de poésie. La dernière fois, il m'a demandé, maman, est-ce que les mésanges, elles comprennent le langage des moineaux? Enfin, juste, c'est un émerveillement qui est inouï. Mais je trouve ça important qu'on présente des récits ambivalents. C'est-à-dire que il y a cette merveille et puis il y a tout ce qui est dur à côté. Et moi, je pense que si on dit ce qui est dur à côté, eh ben, ça enlève pas tout ce qui est difficile. Ça rend juste ce qui est joli plus joli parce qu'on a pu s'y consacrer mieux.
Et vous, Cédric Rostin, qu'est-ce que vous mettez dans la jolie colonne?
Ah ben, moi je mets plein de choses. Je mets la découverte merveilleuse du monde de l'enfance. On en parle beaucoup avec André Stern dans mon épisode 13, L'enfant est un géant, dans le podcast. Et c'est vrai que moi, c'est un émerveillement de tous les jours, comme le dit René. C'est d'ailleurs ce qui est une des raisons qui a amené notre choix d'instruire notre fille en famille, pour passer un maximum de temps avec elle. Pour moi, tous les jours, je suis très présent avec elle. Et tous les jours, je m'émerveille. Évidemment aussi que tous les jours il y a des trucs qui me gonflent, mais tous les jours je m'émerveille. Et tout à l'heure René disait quelque chose de très beau qui est à la fois difficile et à la fois merveilleux, c'est que quand on devient parent, on a notre enfance et on se voit aussi enfant beaucoup, on rencontre notre enfant qu'on était. Et moi j'aime beaucoup quand mon enfant joue avec ma fille.
L'enfant en vous voulez dire?
Oui, exactement.
Ouais. C'est très joli. Les compliments des enfants à leurs parents aussi, vous en parlez dans votre livre, ce petit garçon qui dit à sa mère qu'elle est plus belle qu'une licorne, René Grosard.
Oui, c'est vraiment trop mignon, ils ont des mots que je trouve qui sont adorables. Moi, mon fils, il arrête pas tous les jours de me dire « Maman, je t'aime maman », et je dis « Mais non, mais moi je t'aime ». Il me dit « Mais moi je t'aime plus fort que toi, ok ?» Il y a une sorte de baston qui se met en place. Mais quel est le sens de ce dialogue? Il n'a pas de sens. Et en même temps, c'est merveilleux. Enfin...
quand même, il y a quelque chose qui m'a scandalisée. J'aimerais qu'on en dise un mot dans votre livre, René Grosa.
Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur.
Cette mère qui pratique une escroquerie pure et simple avec son enfant en ne disant pas les noms des aliments qu'elle donne à manger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ah, mais moi, je la trouve fascinante et d'une intelligence rare. C'est-à-dire qu'on a, il y a, donc je parle de néophobie alimentaire dans le livre.
Donc le refus d'un nouvel aliment.
C'est ça. Et les enfants, en fait, ils, quand ils connaissent quelque chose, ils sont bien campés dessus. Donc les pâtes, ça on y va, c'est cool. Mais toutes les nouveautés, en fait, et moi qui adore manger, qui adore cuisiner, c'est vraiment une. Franchement, je suis désolée de le dire comme ça, mais ça a été quelque chose d'assez violent, en fait, de découvrir mon fils qui voulait pas manger des trucs, c'était malaisant, quoi. Elle, ce qu'elle fait, c'est que quand elle présente un aliment à ses enfants, elle ne leur dit pas ce qu'elle leur présente. Donc elle va leur dire, tu veux de ça? L'enfant va goûter. Et s'il aime pas, elle dit d'accord, pas de problème. Mais elle va lui reproposer la boîte après.
Cuisiner autrement, peut-être.
Voilà, c'est ça, cuisiner autrement. Et ça, c'est super important parce qu'on dit qu'un enfant, il a besoin, je crois, de tester 16 fois un aliment, peut-être avant de l'aimer. Donc, c'est brillant. C'est qu'elle n'associe pas le mot à l'aliment. Donc, il n'y a pas courgette, j'aime pas. Ça n'existe pas. C'est juste, ah, ce truc vert là, bof.
Et le lendemain, ça peut marcher.
Et le lendemain, on sait pas. Donc, la vie est pleine de surprises.
Donc, ça n'est pas une arnaque.
Ça n'est pas une arnaque. C'est une stratégie brillante.
Voilà. Puis, dans les choses qu'on vient d'entendre aussi dans ces témoignages de parents, moi, j'aime beaucoup ces deux petits mots qu'il faut répéter, je crois, aux futurs parents, aux jeunes parents et aux vieux parents. Tout passe.
Tout passe.
Tout passe.
Tout passe. C'est un mantra, ça?
Ah non, mais ça, c'est le truc. C'est le conseil. Et vous savez, bon, moi, j'ai un seul enfant. Et donc, j'écoute beaucoup, beaucoup les témoignages de parents qui en ont 2, 3, 4, 5, 12. Et c'est vrai que ça, c'est le truc qui revient, notamment. Et apparemment, c'est ce qui facilite beaucoup au deuxième aussi, c'est de se dire, OK, je galère. OK, c'est chiant. Ça va passer.
Allez, place à l'actualité du livre pour enfants à présent. Voici Denis Chessou et ses conseils d'album jeunesse. C'est un bestiaire cette semaine. On y trouve des grues du Japon et une hérissonne. Bonjour Denis.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là tu lis mon petit loup.
Eh oui, bonjour Dorothée, bonjour à tous et aux animaux. Une hérissonne bien sensible est signée Ulrika Kester aux éditions L'étagère du bas à partir de 5 ans. Une hérissonne, loin de chez elle, aperçut une ronce sur laquelle poussait une drôle de mûre.
Elle avait la taille d'une pomme.
La hérissonne venait l'admirer chaque jour, malgré la distance.
Elle voulait manger ce fruit lorsqu'il serait parfait, ni trop ferme, ni trop mou.
Sa patience fut récompensée.
Un beau jour d'été, la mûre était enfin parvenue à maturité.
L'hérisson grimpa le long de la ronce, se laissa étourdir par le parfum sucré du fruit avant de s'élancer pour la croquer. Mais elle fut interrompue dans son élan par un corbeau.
Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger cette énorme mûre?
Le corbeau s'indignait que la hérisson ne prête pas le temps de se photographier avec une mûre aussi exceptionnelle pour pouvoir s'en vanter.
Un peu confuse d'avoir été réprimandée, la hérisson reprit le chemin du retour avec la mûre. Le corbeau lui avait prêté une brouette, mais celle-ci était lourde et branlante et le sentier chaotique.
Elle attira l'attention d'un renard.
Hé, oh, hérisson, tu ne vois pas que ta mûre va devenir de la compote à force d'être secouée comme ça?
Pas le choix pour notre héroïne. Elle posa le fruit sur sa tête et avança avec difficulté. Et elle était loin de ses peines quand elle croisa Monsieur Hibou.
Ouh, hérisson, tu trouves que c'est une bonne idée, ça? Trimballer quelque chose d'aussi lourd? Tu veux t'abîmer le dos?
La sagesse du hibou la pressa alors à faire rouler la mûre devant elle. Mais cela indigna la belette du coin.
Il semble que c'est la plus grosse mûre du monde. Et toi, tu vas la faire rouler par terre. Tu ne vois pas qu'elle va être sale?
Oh, mais zut, à la fin, la hérisson allait-elle enfin savoir quoi faire de sa mûre? Alors Ulrika Kester signe un conte en randonnée où une héroïne piquante se retrouve embêtée par tous les conseils plus ou moins avisés et surtout contradictoires qu'elle glane sur son chemin.
Et le livre est un rappel précieux et encourageant sur la confiance à avoir envers ses propres décisions.
Alors il est délicieux d'en savourer tout le sarcasme derrière le charme naïf et délicat des illustrations. Impossible de ne pas penser à l'irritation causée par les conseils non sollicités, par les avis de ceux qui pensent mieux savoir que les autres et surtout si on est une hérissonne femelle.
Trop sensible.
Voilà, donc album futé et truculent aux multiples niveaux de lecture qui parviennent à parler autour de la nature, de l'être humain et de l'époque dans laquelle il vit. Une hérissonne bien sensible aux éditions de l'étagère du bas, c'est à partir de 5 ans. Tancho de Luciano Lozano aux éditions des éléphants à partir de 6 ans. Direction le Japon, l'hiver sur l'île d'Hokkaido dans la région des marais.
tout le monde appelle le petit garçon Tancho, le surnom que les Japonais donnent aux grues.
Alors Tan signifie rouge et Cho le sommet, la couronne, la tache rouge qu'elles ont sur la tête.
Aux premières neiges, Tancho voyait les grues arriver pour passer l'hiver.
Ballet, danse, référence, déclaration d'amour, un éclat de beauté du monde. Et autrefois, les Aniou, ce peuple autochtone et animiste, prenaient soin des grues.
Mais aujourd'hui, ils sont si affairés et si pressés qu'ils ont fini par les oublier.
Alors d'année en année, elles venaient de moins en moins nombreuses en manque de nourriture. Et malgré leur champ fatigué, eh bien Tancho réussit à les faire revenir. Il nourrit un couple tout l'hiver. Elles reprirent leur migration et revinrent, ouais, mais avec des petits. Alors la colonie en voie d'extinction grandit et prospéra.
Et Tancho travaillait très dur. Il se met deux fois plus de graines et conservait sa récolte pour l'hiver.
Sa fille reprit ses gestes. Et cette histoire vraie, ce sauvetage de la nature par les humains, est celle de Yoshitaka Ito, le gardien des grues.
Et dans sa ferme fut créé un sanctuaire qui deviendra plus tard le centre de conservation des grues du Japon. Et sa famille continue cette action.
Alors le Japon et son esthétique ont une forte influence sur le travail de Luciano Lazzano. Les illustrations épurées aux couleurs hivernales, l'idée de la gravure japonaise ne sont jamais loin. Et alors le tout dans une très belle harmonie respire le soin porté à la nature. Comment donc un homme a pu sauver les grues du Japon? C'est Dieu des marais, de l'extinction. C'est donc l'histoire de Tant de choses, édition des éléphants. À partir de 6 ans avec plein d'informations à la fin. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Et on clique à la page de L'Atulu, mon petit loup, sur franceinter.fr pour retrouver tous ces conseils de livres pour enfants. Je suis toujours avec Cédric Rostin, le podcasteur du Pas Patriarcat, et avec Renée Grezard, autrice de Choisir d'être mère. J'ai à présent une dernière question à vous poser à tous les deux, question rituelle de Barbatruc. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Cédric Rostin.
Alors moi, dans mon enfance, j'aime beaucoup l'odeur de l'herbe coupée. Je me rappelle de ces moments. En fait, c'est l'odeur de la nature, de la campagne. C'est tout ça. En fait, c'est tout un bouquet d'odeurs. Moi, j'ai grandi avec la chance de grandir à la campagne et de pouvoir me balader comme je voulais, de pouvoir tomber autant que je voulais. Et donc, j'ai toutes ces odeurs de la tête qui tombe dans la terre, de l'herbe qui vient d'être coupée. J'habitais près des vignes, donc voilà, j'ai plein d'odeurs qui reviennent. Mais c'est globalement, c'est les odeurs qu'on va retrouver dans les bois, dans la nature.
Et vous, Renée Grezard, quelle est l'odeur de votre enfance?
Il y en a énormément parce que je suis très sensible aux odeurs, mais en fait, c'est mes deux grands-mères. J'ai une grand-mère sénégalaise, moi, et une grand-mère française, qui sont toutes les deux décédées maintenant. Mais en fait, chez ma grand-mère, il y avait, elle avait un parfum que j'ai jamais su identifier, mais qui était assez fort et qui était voilà. Il y avait aussi l'odeur de sa buanderie, qui était une odeur de pierre mouillée, de terre. Enfin, c'était voilà assez émouvant. Et puis ma grand-mère, c'est le turail, qui est un encens en fait qu'on diffuse au Sénégal et qui embaumait comme ça. Il y avait sur son boubou. Donc c'est des odeurs comme ça que j'ai. C'est mon métissage en fait, les odeurs, on peut dire. Voilà.
Les odeurs de deux grands-mères et celles de l'herbe coupée, nous mettons sous cloche ces deux parfums de l'enfance. Tu vas être papa de Cédric Rostin est à lire chez First Edition et je rappelle le nom très savoureux de votre podcast et de votre compte Instagram, le Pas Patriarcat. Quant au livre de Renée Grezard chez Lattès, il s'appelle Choisir d'être mère. Tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.